Guerre des Rastas surtout. C'est genre Casbah ici à ce qu'on m'a dit, tu vois bien, sambre et meuse quand même, quelles ahuries. Aux terrasses des cafés, des Turcs coiffés du fait lisaient le Nouveau Siècle, un journal allemand écrit en français. Deux sous-officiers empêchèrent leurs hommes de l'acheter. Des gradés australiens regardaient paisiblement la scène. Leurs soldats ne lisaient que l'anglais. À deux môles de là, Augustin s'habituait au paysage. On aurait dit les photographies sépia des albums de géographie qui représentent les ports exotiques ou les comptoirs français, Pondichéry, Yanaon, Karikal et Mahé. Marie-Antoinette lui avait offert un livre de Jules Verne illustré d'images lointaines. Bourse de voyage. Y voyait-on seulement Salonique. Deux, trois ambulances furent amenées au bout du quai. Les soldats valides y portèrent leurs camarades. Certains ne disaient rien, d'autres voulaient plaisanter, rire de cette nouvelle aventure. Là-bas c'était ici si loin. La plupart n'avaient jamais quitté, non pas la France mais une petite patrie particulière, et pourtant ils n'étaient pas inquiets. C'était ailleurs, ils s'y feraient. Ils auraient de quoi parler, en revenant. Les ambulances parties, le quai se vida peu à peu. Les soldats partirent par groupes vers les cafés, sauf quelques-uns qui restèrent assis sur les caisses de vivres à regarder le port et au-delà. La foule des habitants, elle, quittait son point d'observation pour se retirer plus haut, vers les lumières, car bientôt la mer, sans lune au-dessus, allait s'enfoncer dans le noir. Les piquets de garde prenaient position un peu partout. Dans ce qui était bien en vue, les soldats conservaient une allure martiale. Dans les autres, ils avaient au fait de déboucler le ceinturon, et assis sur les murets de terre sèche, jambes pendantes et pipe à la bouche, de sortir les cartes crasseuses qui les avaient distraits pendant le voyage et dont ils ne se lasseraient pas. Le dernier contingent débarquait d'un petit vapeur. « Adieu Moudreau, adieu les puces !» cria un zouave en jaune qui venait du Cap Ailey. Une tempête de rire l'accueillit. Il rejoignit ses camarades en ordre de section, et la petite troupe quitta le port au pas, par rang de quatre, au son d'un clairon fendu. Les grosses gamelles luisaient aux derniers rayons du soleil. Ils contournèrent la ville par de petites rues bordées de maisons basses, la plupart faites de paille et de terre, certaines construites en style occidental, avec de pauvres colonnettes encadrant des façades rectilignes. Ils défilèrent entre deux cimetières turcs et gagnèrent la campagne, descendant vers le Vardar. Les femmes macédoniennes, les reins pris dans de larges ceintures, quittaient les champs pour les voir passer. Les cigognes, qui les avaient suivies un temps, s'étaient arrêtées en haut des derniers minarets. Maintenant il fallait oublier. Augustin aurait aimé oublier, retrouver la pureté des premiers jours, une page blanche où écrire ce qu'on doit, rien de plus. L'Orient n'y suffirait pas. C'était une terre sans charme. Dès l'abord il l'avait jugée fade, malgré les minarets, les Serbes au bonnet gris, les Turcs et les espions. On trouvait dans cette ville des occasions d'avoir pitié. Le petit fonctionnaire macédonien, qui ne peut plus payer l'hôtel et marche toute la nuit sur le port en prétendant se promener, les tantes des réfugiés tantes de ceux qui auront porté des chapeaux même s'ils n'en portent plus, et tantes de ceux qui n'en portaient pas, bien séparer le troupeau des orphelins ramassés sur les sentiers de montagne de la retraite, les blessés, les désœuvrés. On y trouvait aussi des occasions de se distraire. Les mille petits trafics, les bains de vapeur, les femmes koutsovalak qui vendent de si jolis chaussons de laine, et surtout les quiproquos et les rencontres, le consul de Bulgarie et l'officier français forcé de partager la même table, faute de place, l'Autrichien inconnu qui propose du feu et les jurons dans toutes les langues, ici c'est Berne et Byzance, disait l'aide de camp du général Sarraï. Berne, Byzance et bordel. Et il éclatait d'un gros rire. Un zeppelin tombe, et des patrouilles de cavalerie lancées dans la campagne retrouvent ses occupants tous nus devant le feu où sèchent leurs vêtements. Il y a aussi les Grecs qui vont, qui viennent, qui rendent les honneurs, et bien sûr, tous ces fantassins français qui puent la Marne et la Somme et se bousculent au beuglant des armées. Il y avait de tout à Salonique, et même, l'hiver, de la neige étincelante comme du sel. Augustin n'y trouva pas de raison d'oublier. Il n'était plus très sûr qu'il y eût un voile à déchirer. C'était là le bout du monde, celui qu'on voit aux cartes anciennes. Au bout du monde, il retrouvait cette même vieille histoire, oubliée, et pour y parvenir se refuser aux souvenirs, aux émotions. Pratiquer la terre brûlée, il n'y pouvait rien, c'était son lot et aussi peut-être celui de tous. Souvent lorsqu'il marchait dans les rues basses pour se rendre à l'hôpital, il se reprochait d'avoir dépensé tant d'énergie en vain, de s'être gardé plus qu'il ne fallait, et même ses enthousiasmes passés lui paraissaient étranges. Il eût mieux valu ressentir d'autres choses mais lesquelles? Goûter la vie différemment. Mais je suis ainsi, je n'y peux rien, est-ce ma faute? La révolte le gagnait, il fallait résister encore. Non, l'Orient n'était d'aucun secours, il y avait bien une armée d'Orient, une école française d'Orient, une question d'Orient, mais il n'y avait pas d'Orient, seulement une terre triste et sale avec des heures pour la prière. À ce compte, les rues orientales de Paris, la rue du Montengros et même la rue de Salonique, offraient aux rêves des aliments plus riches. L'Égypte de Nassenheil ne devait pas être très différente. Assis sur une borne sur la route de l'hôpital ou attablé devant un café turc, peu sensible au spectacle d'une foule bigarrée, Augustin ne voyait plus de raison de revenir sur son ancienne prévention contre les voyages.